Voilà, chers amis, nous sommes donc dans une leçon de l'insoutenable légèreté de l'être du 23 novembre. Et nous sommes au chapitre 6 sur la question métaphysique de la mort. Cependant, comme vous avez vu sur votre feuille de route, j'espère que vous en avez tous, une feuille de route, elles sont là. Donc il y a un recto et un verso avec les dessins. Je reviens sur le chapitre 5, l'histoire, pour la raison que deux questions m'ont été posées sur le schéma de Gaston Fessard, que je reproduis donc au verso de la feuille de route. Une première question de Jacques, c'était: est-ce que c'est un happy end de Gaston Fessard dans sa conception de l'histoire tendue entre un alpha et un oméga, puisque l'oméga serait la réalisation de tout dans le bien, et donc y aurait-il la question du mal, qu'est-ce qu'elle devient, est-ce qu'il y a un enfer, etc. Je réponds un petit peu à cette question à partir des deux schémas qui sont là. Vous voyez le schéma du bas, c'est celui que je vous ai fait avec donc l'histoire de l'univers, avec les trois historicités, ou pour mieux dire les trois dimensions de l'histoire, si on veut. L'histoire naturelle, le temps cosmique. L'histoire humaine, qui est une portion de cette histoire naturelle, pour chaque homme, pour chaque civilisation, etc. Et finalement, la circonférence, c'est l'histoire surnaturelle, avec un très haut et un très bas. Je crois que c'est comme ça que Fessard dit. Moi, j'ai dit que c'était Dieu. Évidemment qu'on peut avoir en tête que c'est Dieu, mais disons, en tout cas, il voit, lui, un très haut et un très bas. Donc voilà, j'ai rappelé ce schéma. Par ailleurs, on peut, dans le cercle qui est au-dessus, voir la vie humaine elle-même, comme présentée là, de la même manière, avec un alpha qui est la conception, la naissance ensuite, la mort et la résurrection. Conception et résurrection étant les parties justement qui font partie de l'histoire surnaturelle. Surnaturelle. Alors vous voyez que la conception est tout au début. J'ai mis un long temps entre la conception et la naissance parce que ce ne sont peut-être pas seulement les 9 mois de la gestation, mais c'est toute l'histoire humaine. Qui finalement nous conçoivent un jour dans ce monde. Et la résurrection vient après la mort, bien sûr, mais dans un temps, indéfini. Voilà, c'est un peu un rappel du schéma, avec la symbolisation de la vie humaine superposée à la vie du cosmos, avec un haut et un bas, comme vous voyez, un croisement avec un centre. Le centre est le centre du présent, du présent de chaque être humain au moment présent. Les 4 temps de la vie humaine, dans un dictionnaire, on voit toujours naissance et mort. Moi, j'aime bien marquer les 4 temps de la vie humaine: conception, naissance, mort et résurrection. Avec cette conception et cette résurrection, en tout cas, c'est évident pour la conception, qui est un moment métaphysique, puisque on passe de on entre dans l'être. Avant, était-on dans l'être? Pas en tout cas sous une forme individuelle ou personnelle. Le présent au centre est à égale distance de tous les points de la circonférence. Et c'est ainsi que l'histoire surnaturelle, si on veut, est complètement présente à chaque moment du centre. C'est un petit peu une symbolisation, évidemment. Alors, pour répondre à la question du happy end, justement, peut-être que la partie du dessus, c'est plutôt la partie du bien, et la partie du dessous, la partie du mal. Le très haut, le très bas. Alors, tout ceci, ce sont des schémas, évidemment, des schémas. Alors, je vous signale ici une petite sentence du père Joseph Maréchal, qui était un jésuite philosophe à Namur, et que je trouve très important. Moi, j'aime beaucoup les schémas, et en même temps, il faut se méfier des schémas. En même temps, les schémas éclairent, mais ils suggèrent, mais ils peuvent induire en erreur. Donc, il ne faut pas se laisser induire en erreur par un schéma. Il faut profiter du schéma pour comprendre quelque chose. Si le schéma cloche, il faut oublier le schéma, et il faut plutôt penser juste. Alors le père Maréchal disait que penser, qu'est-ce que c'est penser? Eh bien penser, évidemment, c'est dans sa tête avoir des images de choses qui bougent, etc. Et puis à travers ça, on se forme une pensée, bon d'accord. Mais ces images qui bougent dans notre tête, ce n'est pas la pensée. Ce sont des représentations qui aident la pensée. Par exemple, je vous dis cause-effet. Cause-effet, je ne sais pas ce que ça a produit dans votre tête, mais par exemple, ça a produit une boule de billard qui cogne une autre boule qui s'en va. Voilà. Vous représentez imaginativement quelque chose et ça correspond au concept cause-effet. Mais le concept cause-effet n'est évidemment pas imaginable. C'est un concept. Un concept, et ce n'est pas des représentations. Donc, dit-il, il faut essayer de penser sans se laisser induire en erreur par la représentation, et en même temps, c'est impossible de se passer de représentation. Penser de manière pure, sans représentation, c'est impossible. Les représentations accompagnent toujours. Cependant, la pensée, ce n'est pas le petit cinéma intérieur des représentations. Ce petit cinéma intérieur nous aide. Et d'ailleurs, ce cinéma intérieur s'appuie sur tout ce qui est matériel, corporel. Je vous ai dit une fois que le corps était l'archi-symbolisable. Très souvent, par exemple, vous pensez maladie, vous avez une sensation dans votre corps d'un jour où vous avez été malade, on ne se sent pas très bien. Donc les représentations peuvent être aussi de synesthésiques, si j'ose dire, des sens qu'on a eus, intérieurs ou extérieurs, le chaud, le froid. Je vous dis la mort, vous avez un frisson. Alors le concept de la mort, c'est pas le frisson. Mais pourtant, le frisson accompagne toujours certaines personnes quand elles pensent à la mort. Bon. Penser, comment va-t-on faire pour penser sans confondre la pensée avec les représentations qui peuvent être, théoriques, un petit cinéma, des carrés, des lignes qui se croisent, ou bien des cercles comme j'ai fait ici, ou bien des sensations affectives d'ailleurs, toute sensation est marquée par l'affectivité. Comment va-t-on faire pour penser sans se laisser piéger par les représentations? Eh bien, c'est ça l'exercice que fait le philosophe. Et dit Maréchal, il faut penser en dépendance extrinsèque, voilà la belle formule, il faut penser en dépendance extrinsèque par rapport aux éléments de la représentation. Ça veut dire qu'il y a une dépendance dont on ne peut pas se défaire. Mais il faut que cette dépendance ne soit pas intrinsèque, ça veut dire qu'elle ne commande pas la pensée. Il n'y a pas moyen de ne pas dépendre des représentations, mais cette dépendance doit avoir une certaine distance, une certaine liberté par rapport aux représentations. Et la pensée, c'est donc aller plus loin, s'abstraire davantage des représentations qui sont pourtant toujours là. Donc voilà, qu'est-ce que penser? Eh bien, c'est cogiter en dépendance extrinsèque par rapport aux éléments de la représentation. C'est une petite formule que je trouve intéressante et qui m'a souvent beaucoup aidé. Notamment, quand je fais tous ces schémas, je ne crois pas au schéma. Je crois à ce que représente le schéma au niveau de la pensée. Et donc, si un schéma peut être remplacé par un autre meilleur, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Alors, un deuxième retour sur le chapitre 5, l'apparition de Dieu pour boucler l'histoire surnaturelle n'est-elle pas un deus ex machina? Est-ce que, un fessard qui dit à la fin de son truc, voilà l'histoire surnaturelle, il y a Dieu au-dessus, est-ce que c'est de la philosophie d'introduire ce Dieu, tout à coup, pour boucler l'histoire surnaturelle? Eh bien voilà, c'est une objection qui m'a été faite aussi un petit peu, et j'ai réfléchi à cela, et je réponds donc dans ce sens-ci, Fessard ne parle pas du Dieu de la religion catholique ou du Dieu de la Bible, il parle de la dimension transcendante de l'univers et de l'histoire, qu'on peut appeler de toutes sortes de façons, mais qui doit absolument se détacher de la dimension immanente de cette histoire et de cet univers. Donc, bien sûr, c'est un Deus ex machina si on pense à notre Dieu de notre religion chrétienne catholique. Non, si on comprend ici un concept plus vaste, celui de transcendance, comme opposé à la pure immanence du monde matériel. Alors, Dawkins, je crois que je l'indique là, oui, Dawkins, Richard Dawkins, c'est un athée qui a écrit ce bouquin-ci, « Pour en finir avec Dieu ». Voilà. « Pour en finir avec Dieu ». Et une des toutes premières, il met en exergue, voilà, à la page 19, il met en exergue une citation d'Albert Einstein. Donc il met Albert Einstein de son côté. Et que dit cette citation ? Donc c'est signé Albert Einstein. « Je n'essaye pas d'imaginer un Dieu personnel. Il suffit d'être impressionné par la structure du monde, dans la mesure où elle permet à nos sens inadéquats de l'apprécier. » Donc en effet, voilà, Einstein ne croit pas, mais essaye de ne pas imaginer un Dieu personnel. Mais est-il pour autant un athée, comme le prétend Dawkins ? Et Dawkins met évidemment Einstein de son côté, de manière à dire, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ne sont pas d'accord avec Einstein, qui est l'homme le plus intelligent de l'univers, dont vous êtes des imbéciles. Bon, ça c'est évidemment la tactique. Eh bien, voilà, je crois que pour comprendre cette citation d'Albert Einstein, il faut aller un peu plus loin. Einstein refuse qu'on le taxe d'athéisme. Très souvent, il s'est refusé à cela. Même s'il ne croit pas à un Dieu personnel, ça il l'a dit évidemment plusieurs fois, parce qu'il l'estime trop anthropomorphique. Le Dieu personnel de la Bible, etc., ou de la morale, ou de l'Église, peut-être catholique, ou de la religion juive, je ne sais pas, il est toujours en danger d'anthropomorphisme. On projette sur lui des sentiments humains, et on en fait un super, super, super homme, super fabricateur, super horloger, super juge, etc. Mais on ne décolle pas, on ne passe pas à une autre dimension. Ça, saint Thomas d'Aquin est parfaitement d'accord avec lui. Le Dieu de saint Thomas d'Aquin, eh bien, doit être pensé, justement, avec l'analogie. L'analogie. Voilà. Mais, bien sûr, Albert Einstein est impressionné par la structure du monde, par son intelligibilité. Il le dit très souvent. « Ce que je ne comprends pas, c'est que le monde soit compréhensible. » Ah ben, ça, pour lui, c'est extraordinaire. Je ne parviens pas à coïncider avec cette intelligence qui est dans le monde. Cette intelligence qui me dépasse, qui est inscrite dans la matière, et qui est bien sûr plus que la matière. Et que mon intelligence à moi comprend en partie, mais est largement dépassée. De sorte que il perçoit dans l'harmonie et la beauté de l'univers une intelligence supérieure qu'il ne faut pas chercher à comparer à une personnalité humaine. Alors tout ceci, je le tire d'un autre livre qui s'appelle Einstein et la religion, Einstein and Religion, voilà, d'un certain Max Jemmer. Je vous ai mis la référence là, sur votre feuille de route, et qui bien sûr approfondit beaucoup plus que Richard Dawkins la notion de Dieu chez Einstein. Einstein aussi refuse le titre de panthéiste. Il n'est pas panthéiste. Le panthéisme est trop immanentiste. Lui, il voit quelque chose de transcendant dans cette intelligence supérieure. Il se sent envahi, dit Einstein, par un « cosmic religious feeling », un sentiment religieux cosmique. Il perçoit dans le monde une transcendance qu'on ne peut pas évacuer. Alors, à preuve, Einstein reçut en 1929 en hommage un livre d'un certain Edward Büchink de Stuttgart, qui avait publié sous le pseudonyme, il avait publié « Es gibt keinen Gott, Bekenntnisse eines Unbekannten ». Donc, il n'existe pas de Dieu, confession d'un inconnu. Voilà. Après avoir lu son livre, offert en hommage, Einstein lui répondit que son titre était faux, que son livre ne prouvait pas « Es gibt keinen Gott », il prouvait « Es gibt keinen persönlichen Gott ».« Kein persönlichen Gott », ça veut dire « Il n'existe pas de Dieu personnel ». Mais avec cela, Einstein est d'accord, mais pas avec Esgid Kanyengott. La conclusion de Büsching était « Là où le savoir est fort, la foi se meurt. Là où la foi domine, l'esprit s'essouffle. » Eh bien, elle est l'antithèse d'une formule souvent répétée par Einstein et que je vous ai mis sur la feuille de route au verso, et qui dit ceci « Science without religion is lame. » La science sans la religion est boiteuse. Religion without science is blind. La religion sans la science est aveugle. Voilà, il a dit plusieurs fois cette formule-là. Donc pour lui, il y a une inspiration, un dynamisme que la religion insuffle dans la recherche humaine et aussi scientifique, qui lui donne quelque chose. Einstein calquait ainsi une formule de Kant qu'il admira pendant un certain temps. La sensibilité sans l'entendement est aveugle et l'entendement sans la sensibilité est vide. Grande formule de la critique de la raison pure que Einstein a lue à l'âge de 16 ans. Donc il était quand même un peu philosophe, ce Einstein, pas seulement physicien, et il commente donc ce livre de Büsching en disant ceci. Nous, les partisans de Spinoza, parce qu'Einstein a d'abord été, si on veut, plutôt du côté de Mach, un positiviste, puis du côté de Kant, un siècle avant, plutôt, il l'entend en tout cas comme phénoméniste, et puis du côté de Spinoza, qui est plutôt un moniste déterministe, dirais-je. Nous, les partisans de Spinoza, c'est Einstein qui écrit, donc preuve à l'appui ici, nous voyons notre Dieu dans l'ordre merveilleux et la régularité de tout ce qui existe, et dans son âme, Beseeltheit, dans son âme telle qu'elle se révèle dans l'homme et l'animal. C'est une autre question de savoir si la foi en un Dieu personnel doit être contestée. Freud, dit-il, appuie cette vue dans sa dernière publication. Einstein et Freud, se connaissaient plutôt de loin. Ils ont d'ailleurs écrit un livre après la guerre pour militer pour la paix. Donc Freud appuie cette vue dans sa dernière publication, qu'il faut contester l'existence d'un Dieu personnel. Moi-même, dit-il, je ne m'engagerai jamais dans une tâche pareille. Pourquoi ? Car, même s'il ne croit pas trop à un Dieu personnel, il ne s'engagerait pas dans cette tâche de démolir la foi en un Dieu personnel. Pourquoi ? Car cette foi me semble préférable à l'absence de toute conception transcendantale de la vie. Cette foi me semble préférable à l'absence de toute conception transcendantale de la vie. Et je me demande si l'on pourra jamais fournir, avec succès, à la majorité de l'humanité, un moyen plus sublime que cette religion d'un Dieu personnel pour satisfaire ses besoins métaphysiques. Il se demande si supprimer cette religion, c'est priver la majorité de l'humanité d'une voie d'accès à la métaphysique qui est nécessaire selon lui. Donc voilà, je crois que c'était pour répondre un peu à cette question. Est-ce qu'il faut absolument mettre Dieu dans cette histoire surnaturelle ? Peut-être pas, peut-être oui. Mais en tout cas, on voit bien que cette notion de Dieu qui est importante pour l'histoire, selon Fessard, peut-être, à mon avis, ce que Einstein pense de la transcendance, de cette beauté du monde, de cette harmonie qui appelle un sentiment d'admiration et même de vénération, si on veut, et qui dynamise l'esprit. Parce que la science, sans ce sentiment, est boiteuse. Mais la religion, si elle veut ignorer la science, elle risque d'être aveugle. Voilà, donc c'était un petit retour sur le chapitre 5, et maintenant j'aborde le chapitre 6, qui est un chapitre difficile, qui est la question métaphysique de la mort. Il y aura deux leçons sur cette question. La question de la mort. Alors, je ne vais pas pouvoir évidemment vous donner la clé de l'immortalité, certainement pas, ni même vous expliquer pourquoi on meurt et comment il faut mourir, bien sûr que non, mais il y a des tas de réflexions intéressantes que l'on peut faire, que j'ai glané comme ça à gauche à droite, quelques intuitions qui me semblent capitales. La question de la mort de l'homme, et même d'une éventuelle immortalité de l'homme, est une question philosophique, pas seulement religieuse, proprement métaphysique et ontologique, qui ne sera pas traitée ici du point de vue religieux. Mais est-ce possible lorsqu'on est croyant ? Si nous sommes croyants, est-ce qu'on peut traiter cette religion de manière purement philosophique ? Bon, c'est le rapport entre la théologie et la philosophie. Est-ce qu'un vrai théologien peut aussi être un vrai philosophe ? Ça, c'est une question. Avant d'aborder cette question des affirmations théologiques, c'est le point 2 donc, sur la feuille de route, quelques petites précisions terminologiques et spéculatives. De nouveau, au verso, vous avez ces mots qui nous aideront peut-être à essayer de parler de la même chose, d'entendre la même chose sous les mots que je vais dire. Il y a le couple éternel-temporel. Éternel-temporel. Pour le temporel, on sait ce que c'est. Qu'est-ce que c'est l'éternité ? Eh bien, ça, on n'en sait pas grand-chose, évidemment. On peut s'imaginer que c'est un espèce de temps atemporel au-dessus du temps, etc. Mais tout ça, c'est un peu de l'imagination. Je crois, en tout cas, qu'une intuition importante à ce niveau-là, c'est celle que saint Augustin a formulée, et qui est celle-ci, je crois que c'est même dans les Confessions. Dieu a créé le temps en même temps que l'espace. La création, eh bien, c'est pas seulement la création matérielle qui tout à coup surgit dans un temps qui préexistait. Non. Et ça, c'est absolument extraordinaire parce que c'est en fait une intuition métaphysique, mais qui est aussi une intuition physique des physiciens. Et des physiciens modernes, contemporains, pas des physiciens antiques. Donc, Dieu a créé le temps en même temps que l'espace. Temps et espace sont complètement imbriqués l'un dans l'autre. La théorie de la relativité, évidemment, eh bien, va tout à fait dans ce sens-là. Le temps est une dimension comme une autre de l'univers, au même titre que les trois dimensions spatiales, et il y en a encore bien d'autres, paraît-il. Donc, c'est impossible d'imaginer ce cercle-là que je vous ai dessiné comme tombant à l'intérieur d'un continuum qui précède et qui est temporel. Donc, le temps est intérieur à l'univers. Et parler d'atemporel ou parler d'éternel, c'est sortir de l'univers et donc c'est dire quelque chose qu'il n'y a pas moyen de définir. Alors, bien sûr, dans ce monde qui existe, qui est temporel, il y a des choses qui sont finies, des êtres vivants, par exemple, qui sont finis, ça veut dire qu'ils naissent, et puis ils meurent. Ils ont un début, ils ont une fin. Est-ce qu'il existe un infini ? Là, de nouveau, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire, l'infini, si on est dans un univers fini ? Mais notre univers est-il fini ? On n'en sait trop rien. Pour Pascal, il ne l'était pas, L'espace était infini pour lui, ce qui lui donnait un certain vertige, et on comprend. Mais que comprend d'autre à la place ? C'est pas si facile. Y aurait-il un être fini, comme l'homme par exemple, qui aurait un début, mais pas de fin, qui serait immortel ? Donc, naissance et mort, mais après la mort, il y aurait quelque chose qui continue. Qui continue quoi ? Dans le temps ? Dans l'éternité ? On n'en sait trop rien. Donc c'est l'idée de mortel et immortalité. Est-ce que la finitude est compatible avec l'immortalité ? Est-ce que le fini est nécessairement mortel ou peut-être éventuellement immortel d'une manière ou d'une autre ? Mais comment alors ? À propos de l'infini, ici évidemment je vais très vite, mais c'est juste pour évoquer, il y a différentes manières d'évoquer l'infini. Bon, on pense tout de suite aux mathématiques, bien sûr, quand on parle d'infini. Mais en philosophie, selon Hegel, il y a le mauvais infini, qui est précisément l'indéfini. Donc 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, plus toujours, toujours. Ça, pour Hegel, ce n'est pas du tout l'infini. Ça, c'est de l'indéfini. C'est le mauvais infini. Et ça, il y en a de plusieurs sortes. Puisque entre 0 et 1, il y a autant d'infini qu'entre 0 et 100 000, etc. Enfin, vous pouvez la symptote, enfin, il y a toutes sortes de manières de représenter l'infini avec des chiffres, avec des lignes géométriques, etc. Mais tout ça, pour Hegel en tout cas, ça n'a aucune consistance métaphysique. Hein? Ce sont des manières de décrire finalement le fini. Ce qui est le vrai infini, selon Hegel, c'est une, si on veut, une intensité qualitative de quelque chose. Une intensité qualitative de quelque chose. Alors, bon, je n'en dis pas plus, hélas, mais je voudrais signaler la différence qu'il y a entre infini et illimité. Avec là, une petite expérience mentale que nous allons faire, hein, qui est très intéressante. La différence entre infini et illimité. On dit parfois que notre univers est fini, mais illimité. Comment peut-on imaginer cela? Il existe un fini illimité. En tout cas, on peut se le représenter. De nouveau, c'est une représentation. Mais cette petite expérience mentale que je vais vous faire faire m'a été suggérée par Mgr Gillon, professeur de physique, qui a travaillé au cyclotron et qui a été recteur de l'université Lovanium à Leopoldville, in illo tempore, et qui essayait de nous expliquer ceci. Comment peut-on penser un fini qui est illimité? Eh bien, imaginez, dit-il, un petit animal intelligent, mais qui n'existe qu'en deux dimensions. Il n'a pas la troisième dimension. Alors, comment se présente-t-il? Il se présente pourtant dans un univers à trois dimensions, parce qu'il se présente, par exemple, comme un triangle sphérique. Alors, qu'est-ce qu'un triangle sphérique? Pour ceux qui ont fait un peu de géométrie dans l'espace et de trigonométrie, vous prenez un ballon de football, hein, et avec un couteau, vous coupez un triangle dans le ballon. Ce triangle, il est en deux ou en trois dimensions? Ben, il est en trois dimensions parce qu'il est courbe, mais il est en deux dimensions parce qu'il ressemble à un triangle. Hein? Mais bien sûr, ce n'est pas un triangle dans un plan, c'est un triangle sur une sphère. Mais imaginez que ce petit animal triangle sphérique ne connaisse que ces deux dimensions, il n'a que deux dimensions, il n'imagine pas qu'il y en a une troisième, mais il est intelligent. Dixit Mgr Gillon. Hein? Et donc ce petit animal se dit, bon, l'univers a deux dimensions. Et alors il parcourt ce ballon de football, mais qui est grand comme la Terre, par exemple. Hein? Il parcourt ce ballon et il dit, ben, c'est infini ici, hein? C'est infini, c'est infini. Hein? Moi je marche, et j'arrive jamais au bout. J'arrive jamais au bout de rien. Hein? Mais instantanément, il a fait le tour. Parce qu'il a laissé une petite trace quelque part, hein, il a fait un petit dessin ou je ne sais pas quoi, et un petit caillou du petit poussé, et il dit, mais je suis déjà passé ici. Pourtant, j'ai tout le temps marché en ligne droite. Comment se fait-il qu'en marchant tout le temps en ligne droite, je revienne au même point? Ben, nous comprenons, parce que nous sommes dans la troisième dimension, mais le petit animal en deux dimensions doit réfléchir pour se rendre compte qu'il existe une troisième dimension qu'il ne perçoit pas, qu'il ne voit pas. Hein? Donc voilà, je trouve que c'est une petite expérience, je suppose que vous l'avez comprise, hein? C'est une petite expérience mentale qu'on peut faire et qui nous montre que, maintenant on passe à un autre plan, hein? Trois dimensions, est-ce qu'il y en a une quatrième, quatre, est-ce qu'il y en a une cinquième, etc. On peut, par la pensée justement, hein? Par le raisonnement, on peut détromper les sens qui nous trompent, entre guillemets, ben, ils ne nous trompent pas, mais ils sont incapables de nous dire la réalité parce que nous sommes dans les dimensions où nous sommes, pas plus. Voilà, donc il peut exister un fini illimité. Un fini illimité. Il semble que ce soit le cas de notre univers physique, hein? Mais ça, bon, c'est une autre question. Mais je crois que ça peut nous aider à réfléchir au-delà des représentations, bien sûr, à la question de la mort. Alors la mort, pour les chrétiens, souvent, pas pour tous les chrétiens, mais disons pour certains chrétiens, la mort, eh bien, parce que c'est écrit dans la Bible et parce que c'est clair au niveau de la représentation biblique, la mort a été introduite dans le monde par le péché. Par le péché, en effet, dans le second récit de la création, la première parole de Dieu à Adam, c'est celle-ci, hein, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Mais avant, donc, il ne mourrait pas s'il n'avait pas mangé le fruit. Il ne serait pas mort, donc il était immortel dans le paradis. Voilà une manière de comprendre cette parole en Genèse 2,16. Donc c'est le péché qui a introduit la mort, comme dit Romains 5,12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Voilà. Donc pour certains chrétiens, dans la réflexion qu'ils font sur ces textes, une réflexion que je trouve un peu fondamentaliste, mais il y a des gens très importants qui continuent à la faire, eh bien la mort au sens propre du terme, a été introduite par le péché. Avant, le monde est parfait, il n'y a pas de mort. Et donc, est-ce que Adam aurait été immortel? Ben oui et non, ce sont des questions difficiles au niveau exégétique. Mais donc, si la réflexion théologique part du postulat que la mort est le résultat de la liberté de l'homme, est-ce qu'on peut faire une réflexion philosophique sur la mort? C'est une conséquence de sa liberté. Ce n'est pas une description du monde, ce n'est pas une description de l'homme tel qu'il est en soi. Mais bien sûr, il y a la contrepartie. Dieu nous sauve de cette mort, le Christ nous sauve de cette mort par sa résurrection. Et donc là, on échappe à la mort grâce à la résurrection du Christ. Et donc je dirais bien aussi bien l'entrée de la mort dans le monde que la suppression de la mort par la résurrection sont deux gestes de liberté de l'homme, de l'humanité ou de Dieu. Et donc ce sont les résultats d'une action. Est-ce que c'est donc une description du cosmos? Certains vont même jusqu'à dire que la mort même des animaux a été induite par le péché originel. Bien, je trouve que c'est une conception trop fondamentaliste de la Genèse, de Romains. Alors on vient parfois aussi avec la citation de Sagesse 1.13, « Dieu n'a pas fait la mort ». Sagesse 1.13, « Dieu n'a pas fait la mort ». Mais si on lit le contexte, il me semble que il signifie par là, je dirais une mort de type moral. Parce qu'il dit justement, vous les pécheurs, vous courez à votre perte. Mais le juste, lui, ne connaîtra pas la mort. Comment? Parce qu'il ne fait pas de mal à autrui ni à lui-même, donc il n'est pas dans la destruction. Parce que cette destruction, ce n'est pas Dieu qui l'a inventée. Enfin voilà, de nouveau, je ne vais pas essayer d'expliquer davantage, c'est assez difficile. Mais je veux quand même souligner que cette idée que c'est vraiment le péché d'Adam ou le péché de l'homme qui a imposé la mort à lui-même, mais aussi éventuellement aux animaux, etc., à la fois saint Augustin et à la fois saint Thomas d'Aquin ne sont pas d'accord avec ça. Tous les deux disent déjà autre chose que cette interprétation fondamentaliste. Alors, je n'ai pas mis sur votre feuille de route, mais je vais mettre au tableau, et j'espère qu'on pourra le voir aussi à la caméra, un peu les trois états de nature, si on veut, que saint Augustin considère dans son histoire, dans sa philosophie, sa théologie de l'histoire. L'homme a été créé au point de départ, dit-il, devant cette alternative ci, posse mori, posse non mori. Donc l'homme était dans la possibilité de mourir, mais il ne devait pas mourir. Posse mori, pouvoir mourir, il pouvait mourir, mais il n'était pas obligé de mourir. Il pouvait ne pas mourir, posse non mori. Et c'est à lui de choisir, selon saint Augustin. Bon, vous allez voir que saint Thomas ira encore un peu plus loin, évidemment, dans la réflexion. Et l'homme a mal choisi. Et donc, il a choisi de vouloir mourir. Et puis, comme il pouvait mourir, il est devenu mortel, au sens, je dirais, classique du terme. Et nous sommes donc dans l'état de non posse, non mori. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas mourir. Nous sommes obligés de mourir. Non posse, non mori, ça c'est l'état dans lequel nous sommes. Mais au point de départ, il y avait comme une alternative. Et ben voilà, Adam a choisi la mauvaise branche de l'alternative. Et la résurrection, c'est quoi? Eh bien, c'est lorsque nous serons dans un état différent où nous ne pourrons plus mourir. Non posse mori. Non posse mori. Ne plus pouvoir mourir. Non posse mori. Voilà, donc c'est assez, assez visuel comme genre de réflexion. Hein. On se trouve devant une alternative. Dieu nous a créés comme pouvant ne pas mourir. Ben, qu'est-ce que ça veut dire alors ne pas mourir pour un être comme nous? Mais voilà, on est entré dans la mauvaise branche de l'alternative. On ne peut pas ne pas mourir, mais on est quand même promis à la résurrection où nous ne pourrons plus mourir. Saint Thomas d'Aquin réfléchit là-dessus, évidemment. Hein. Alors, il est toujours d'accord avec Augustin, Saint Thomas d'Aquin. Sauf qu'il le transforme tellement qu'il montre bien qu'il n'est pas si d'accord que ça. Mais il dit, oui, oui, comme le dit Saint Augustin, d'ailleurs, on peut rajouter un tout petit détail, et ça, ça change tout. Alors, il dit là, il se pose la question, Adam au paradis était-il immortel? Oui. Adam au paradis était immortel, oui. Pour combien de temps? Vous savez qu'il pose toujours des questions l'une après l'autre. Il y en a 2000, je ne sais pas quoi, dans la somme théologique. Pour combien de temps? Pour un certain temps. Il était mortel, immortel pour un certain temps. Pour un certain temps. Mais ça veut dire quoi alors ça? Eh bien, pour un certain temps, parce que, quoi qu'immortel, tourner en rond quand même dans le paradis terrestre sans fin, c'est quand même pas si intéressant. Il serait passé à Dieu, mais sans mourir, hein, directement, comme... une espèce d'assomption, je ne sais pas quoi, hein. Il serait passé en Dieu sans mourir. Mais il était immortel au niveau terrestre, mais il n'était quand même pas immortel au point de devoir tourner en rond toute sa vie, enfin immortel éternellement sur la terre. Donc vous voyez que aussi bien Saint Augustin que Saint Thomas, qui fait, je trouve, encore un pas de plus, reconnaissent que l'homme est mortel, ou qu'il est en tout cas mortalisable, si j'ose dire. Hein. Dieu l'a créé comme pouvant mourir. Ce n'est pas le péché qui a créé, ou plutôt décréé la vie, hein, au point que l'homme est devenu mortel. C'est ce que dit Karl Rahner. Hein. Ce n'est pas possible que le péché originel soit une décréation à ce point importante que tout à coup les animaux meurent, etc. Bon. Karl Rahner, évidemment, se prend distance par rapport à cette interprétation fondamentaliste du péché originel. C'est pas possible que ce soit une décréation. La création de Dieu, ben, elle a une consistance. C'est pas le péché de l'homme qui va la décréer à ce point que le monde va se détruire. Alors, ça c'était un peu les préambules théologiques. Maintenant, la question proprement philosophique de la mort. Donc je sais qu'il ne reste que 20 minutes, mais nous aurons une deuxième heure de cours pour approfondir. Hein. Une première chose qui me semble importante à une intuition, qui me semble importante à percevoir dans la ligne du cours que j'ai donné jusque maintenant, quel est le rapport entre notre vraie personnalité humaine et la mort? Nous ne mourrons pas comme les animaux. Nous avons conscience que nous allons mourir, que nous sommes mortels. Les animaux cherchent aussi à ne pas mourir, mais bon, nous pouvons supposer qu'ils ne le font peut-être pas de manière métaphysique, mais je laisse cette question de côté. En tout cas, l'homme a conscience qu'il va mourir et ça marque toute sa vie. Toute sa vie, il est conscient qu'il va mourir. Est-ce que cette conscience... spectaculaire, je dirais, hein, par rapport, semble-t-il, au reste de la création, est-ce que cette conscience va lui donner un rapport nouveau à sa mort, éventuellement le faire échapper d'une certaine manière à sa mort? Ça, c'est la question. Hein? Quel est le rapport de l'homme à la mort? Alors, on peut évidemment régler la question de manière très simple, en ne se préoccupant pas de cela. Hein? Alors, Épicure, par exemple, avait une formule très simple. Hein? Il disait, quand je suis là, la mort n'est pas là. Et quand elle est là, je ne suis plus là. Donc, il n'y a pas de problème, quoi. Hein? On n'est jamais là ensemble, donc pourquoi dialoguer avec la mort? Ça ne sert à rien. Hein? Quand je suis là, elle n'est pas là. Et quand elle est là, je ne suis plus là. Le problème est réglé. Bon, mais je crois que c'est pas non plus à négliger, ce genre de réflexion, mais on peut évidemment aller un peu plus loin. À la lumière de ce qui a été dit de la liberté spirituelle, et du rapport de cette liberté spirituelle au corps, donc c'est le chapitre 1, le corps, hein, la liberté et la liberté spirituelle, chapitre 2, le lien qu'il y a entre le corps et l'esprit, une des trois polarités de Balthazar, hein, le corps et l'esprit. À la lumière de ce qui a été dit, donc de cette intimité, hein, entre le corps et l'esprit, nous pouvons essayer de réfléchir au rapport de l'homme avec la mort. Alors, d'une certaine manière, l'esprit... Alors, c'est quoi l'esprit? Je vous l'ai déjà défini de cette manière-ci. C'est la liberté en présence d'elle-même. L'esprit, c'est l'homme qui se sait libre et qui est au plein de sa liberté. Et la liberté, c'est, comme vous savez, mémoire, intelligence, volonté. Hein? Donc, je dirais, en pleine présence de la mémoire, de l'intelligence, de la volonté, donc la liberté, eh bien, habite ce corps, est présente à elle-même, mais dans ce corps. L'esprit, la liberté, n'est jamais hors du corps, elle est toujours dans le corps. Hic et nunc. Cette liberté spirituelle ne peut être que dans le corps. Elle ne peut être nulle part ailleurs. Mais ce moi, d'une certaine manière, il est toujours au présent. Il est toujours « hic et nunc ». Alors, je vous pose la question, hein, parce que c'est une réflexion de Fichte qui me fait penser à ça. Est-ce que votre moi, votre je, a un âge? Est-ce que, quand vous dites « moi, Bernard Potier » ou « moi, votre nom », est-ce que ce moi a un âge? Comment est-il situé dans le temps? Alors moi, il me semble qu'avec Fichte, on peut dire, mais Fichte est un idéaliste, très idéaliste bien sûr, hein, mais on peut dire que le « je » a conscience d'avoir un corps qui a un âge. Ben, c'est évident. Hein. Je me rends bien compte qu'aujourd'hui, quand je dis « je » Bernard Potier, ben, ce n'est pas le « je » Bernard Potier d'il y a 30 ans qui pouvait courir, etc. Maintenant, son corps court beaucoup moins vite, etc. Mais mon « je » me sent pas plus vieux qu'avant. Il a le même âge. Le « je » est éternel, entre guillemets, ou atemporel, ou domine en tout cas d'une certaine manière le temps. Il est en lien avec ce corps qui lui est temporel, mais le « je » comme tel, dans sa capacité consciente, dans sa capacité de volonté, de liberté, il est sans âge. Il est comme... au-dessus du cours du temps qui n'affecte que, mais c'est important bien sûr, hein, qui n'affecte que l'histoire naturelle de mon corps. Mais l'histoire humaine de ma liberté, eh bien, a déjà une certaine transcendance par rapport à ce corps qui, bien sûr, vieillit. Et l'esprit, cette liberté qui n'a peut-être pas d'âge, doit assumer l'âge de son corps, bien sûr. Mais d'une certaine manière, elle le fait sans vieillir, hein. Ce n'est pas la même chose d'avoir un corps de 20 ans ou d'avoir un corps de 60 ou plus ou moins, mais quand même le « je », hein, a toujours cette liberté, non pas peut-être de courir, mais de se situer par rapport à ce corps, d'une certaine manière, en disant par exemple, eh bien, je ne suis pas d'accord avec mon état corporel, ou bien j'accepte mon état corporel. Ça, nous pouvons toujours le faire. Je ne parle pas ici, évidemment, des personnes qui ont perdu leur faculté mentale, la mémoire, ou je ne sais pas quoi. Hein. Je parle en philosophe. Le philosophe considère toujours que le moi est plus ou moins en forme, pour réfléchir en tout cas. Voilà. La liberté spirituelle est cette capacité de l'être humain d'habiter ce corps dans un jeu qui est au présent de lui-même, dans ce corps qui, lui, bien sûr, a un âge. Et en vertu de quoi est-ce que ce jeu habite ce corps? Ben parce que ce jeu est ce jeu, et qu'il est une personne. Et cette personne se définit, aussi dans la ligne de tout ce que j'ai dit, comme objet et sujet de connaissance et d'amour. Objet et sujet de connaissance et d'amour. Donc sujet de connaissance, sujet d'amour, je peux aimer, je peux connaître, et objet aussi de connaissance et d'amour. Je peux être connu, je peux être aimé. Et cette personne, ce je, eh bien voilà, il est objet et sujet de connaissance et d'amour. Lorsque j'aime une personne, eh bien j'aime ce je que j'apprends à découvrir à travers son corps, bien sûr, à travers ses manifestations, ses paroles et tout ça. Mais en fait, quand j'aime une personne, je n'aime pas seulement ses manifestations extérieures. Hein. C'est un dialogue de jeu à jeu. L'esprit, donc, est une espèce d'alliance immédiate avec l'être. Le jeu est un acte d'être en alliance avec l'être, à travers le corps, bien sûr. Hein. Et il est en rapport avec l'être. Il est acte d'être en rapport avec l'être. L'être qui se manifeste dans le corps, mais le corps n'est pas tout l'être. Hein. Et l'être n'est pas seulement corporel. Donc il y a quelque chose d'immatériel dans ce jeu que je suis, et dans le jeu que j'aime chez l'autre, et que je connais, et qui me connaît. Donc voilà, hein, il me semble que l'anthropologie que j'ai essayé de développer souligne très fort l'intimité du corps et de l'esprit, avec cependant cette dissymétrie, hein, cette supériorité de la liberté spirituelle sur son corps, sans pourtant qu'il puisse se larguer, hein, larguer ce corps, et en être maître. Il reste une opacité de ce corps, une opacité, un poids. Je ne connais pas entièrement ni moi-même ni l'autre, mais je suis quand même centre de connaissance et d'amour, objet de connaissance et d'amour. Et le corps humain, à la différence de tout autre corps, est toujours dans ce rapport avec un je libre, avec un jeu spirituel libre. Le corps humain a cette vocation d'être habité par une vraie liberté, une vraie personnalité spirituelle. Le corps de l'homme est nécessairement le corps de quelqu'un, d'un jeu, d'un esprit. Tout corps humain est un corps qu'une liberté s'approprie. Un corps humain ne peut se penser sans cette personnalisation, sans cette appropriation, par un jeu qui a, eh bien, cette caractéristique, hein, d'être sans âge, d'avoir un rapport au corps, disons, à la fois très intime et à la fois, eh bien, pas entièrement parallèle, pas entièrement symétrique. La liberté spirituelle et son corps vivant, c'est ce que je viens de développer. La liberté spirituelle et son corps mort. C'est ce que je vais développer maintenant. Bon. Si en effet, l'esprit, le jeu, a ce rapport avec le corps vivant, quel rapport a-t-il avec son corps mort, ou en tout cas qui va mourir? Et bien sûr, il faudra que j'arrive à son corps mort aussi. Eh bien ici, je distingue, et c'est très important, c'est une intuition qui me semble capitale, je distingue l'achèvement du corps dans l'histoire naturelle et l'accomplissement de l'être humain, de la personne dans l'histoire humaine. Vous vous souvenez donc de ces deux historicités, de ces deux histoires, l'histoire naturelle, l'histoire humaine, ces deux niveaux différents, il y a l'histoire surnaturelle aussi. Et bien dans ce point 2, comme vous le voyez sur votre feuille de route, j'ai A, B, C, achèvement, accomplissement, et puis trois petits points, là ça deviendra plus tard, hein, c'est le cours suivant. Donc je vais développer achèvement et accomplissement, je le reprendrai d'ailleurs parce qu'il me semble que c'est une distinction capitale. D'ailleurs sur la photo que vous aviez pour le YouTube, j'avais montré cet article-ci. C'est un article justement qui a été écrit dans le journal Théo Catobel, oui, et qui est mon cours, hein, refait en article, voilà, et que j'avais intitulé « La mort nécessaire à notre accomplissement ».« La mort nécessaire à notre accomplissement ». La différence entre achèvement et accomplissement. L'achèvement, c'est, eh bien, l'être humain qui s'achève dans le temps naturel, dans le temps cosmique. C'est donc, bien sûr, la mort qui achève la vie biologique, naturelle, de l'être humain. Et donc là, il y a un achèvement. Il y a une nécessité d'achever ce corps. En effet, ce corps, ben, le corps humain, il est d'abord enfant, adolescent, adulte, vieillard. Et là se trouve engagé, évidemment, le secret de notre finitude, l'irréversibilité dans le temps. Notre corps ne peut pas rajeunir, il ne peut que vieillir. Et donc il ne peut pas renaître, il ne peut que mourir. Il y a quelque chose d'irréversible. C'est une nécessité physique, biologique pour l'homme de s'achever. Mais bien sûr, il y a dans cette irréversibilité, il y a quand même une croissance, hein, une croissance naturelle. On devient adulte. Et puis, bien sûr, il y a aussi un déclin. Hein. Un déclin, le corps, eh bien, a de moins en moins de capacités physiques et parfois même mentales. Et donc là, il y a une nécessité qui s'impose à l'homme, un achèvement nécessaire du corps. Parce que ce corps appartient à l'histoire naturelle et à l'histoire cosmique. Et la mort est pour nous, ben, voilà, le symbole de l'achèvement de ce corps fini, finitude, hein, à l'intérieur du monde physique. Cependant, comme je vous disais, il n'y a pas que le corps, il y a l'esprit. Et l'esprit qui habite continuellement ce corps, cette personne qui est ce corps, qui a ce corps et qui est ce corps en même temps, eh bien, ne s'est pas contenté au cours de sa vie humaine de manger, de boire et de dormir. Cette personne a fait des choses humaines, hein, a connu, a aimé, a été connu, a été aimé. Et je dirais que ça, ce n'est pas sa vie biologique, c'est sa biographie. C'est sa biographie, hein, ce que nous avons fait de notre vie. Voilà, je peux écrire les événements de ma vie. Dans ces événements de ma vie, il n'y a pas que des événements physiques. Il y en a, bien sûr. Hein. Mais il y a aussi des événements qui ne sont absolument pas physiques. Par exemple, ben, j'ai rencontré un tel, je me suis marié, ou bien j'ai reçu mon diplôme de ceci, ou bien je me suis révolté contre tel événement de ma vie, etc. Quoi, hein. C'est une biographie. Cette biographie appartient à l'histoire humaine, pas à l'histoire naturelle. À l'histoire humaine. Alors cette histoire humaine se fait à travers la vie du corps qui va s'achever. Cependant, cette vie humaine est différente, hein, de simplement la vie du corps. Et on pourrait dire que cette vie humaine est appelée à s'accomplir, écrire sa biographie avec les événements de sa vie corporelle, bien sûr, mais aussi intellectuelle, etc. C'est mûrir à l'intérieur du temps naturel, c'est mûrir une histoire humaine, une histoire spirituelle, qui, elle, doit s'accomplir. Alors l'accomplissement est différent de l'achèvement, parce que l'accomplissement, c'est, je dirais, parachever comme une œuvre d'art. Hein. C'est comme accomplir quelque chose de spirituel, de beau, et c'est donner une forme spirituelle à un ensemble d'événements humains. L'accomplissement, c'est donc une espèce de perfectionnement, hein, en tout cas d'appel à perfectionner notre destin, notre destinée. Ce perfectionnement, cet accomplissement, se réalise dans le temps, et il y a une maturation de la liberté, qui va de pair avec certaines phases, bien sûr, de la vie du corps, hein. Quand on est adolescent, on a tel type de liberté, je dirais, quand on est adulte, hein, etc. Mais, voilà, il y a là un accomplissement que l'homme cherche à réaliser et il dispose de sa vie physique pour le faire. Et il doit faire de cette vie physique une œuvre d'art spirituelle. C'est ça que j'appelle l'accomplissement. Et la mort, d'une certaine manière, la mort physique, est nécessaire pour que cette œuvre d'art, hein, ou cette œuvre biographique, cette œuvre spirituelle, se réalise. Comme un tableau, un peintre ne peut pas indéfiniment peindre le même tableau en disant « attendez, c'est pas fini ». À un moment donné, il doit dire « bon ben voilà mon tableau, il est là ». Alors il est beau ou il n'est pas beau, ça c'est une autre affaire. Mais il doit arrêter à un moment, hein, de faire ce tableau pour que ce soit un tableau. Alors, je vous présente une petite parabole que j'ai inventée là pour vous montrer cette différence entre l'accomplissement et l'achèvement. Je réunis une vingtaine d'enfants dans le parc là, hein, un très beau parc, merveilleux, et je leur dis, voilà, écoutez, hein, c'est un grand jeu de louveteaux, je ne sais pas quoi, hein. Voilà, vous avez un parc ici autour de vous, c'est merveilleux, vous avez une demi-heure, et je donnerai un coup de sifflet après une demi-heure, et chacun viendra me montrer, et montrer aux autres, la plus belle chose qu'il a trouvée dans ce parc. Allez-y, courez partout, voyez ce que vous trouvez de plus beau. Le but, c'est de trouver ce qu'il y a de plus beau. En parenthèse, sens et valeur, hein, de la vie, hein, ce qui est le plus beau. Et les voici tous partis en chasse. L'un du côté des fleurs, l'autre du côté des papillons. Un troisième est fasciné par le regard d'un chat. Et son copain trouve extraordinaire l'amitié qu'il vient de nouer avec une fillette. Et donc chacun a déjà un peu une idée de ce qui est le plus beau. Hein. Mais voilà qu'au bout d'une demi-heure, pas de coup de sifflet. L'organisateur du jeu a disparu. Les enfants... patiente, hein. Bon, ben, qu'est-ce qui est le plus beau dans la vie, qu'est-ce qui est le plus beau dans le parc, moi j'ai ceci, moi j'ai ça, ben, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'organisateur, il n'y a pas, on finit pas le jeu, quoi. Ben, ils patientent un peu, puis ils s'ennuient, franchement, ils ont l'impression d'avoir été trompés. Tout être humain venant dans ce monde est habité par un désir du beau, du vrai, du bon, c'est ce qui donne sens et valeur à sa vie. La vie est souvent longue et compliquée, bien sûr. Mais si nous étions immortels, nous serions comme ces enfants, pour lesquels le jeu ne se termine jamais et donc n'a pas de sens. Parce que je les ai trompés, les enfants, hein, puisque je leur ai dit dans une demi-heure, vous montrez ce qu'il y a de plus beau, et puis il n'y a rien. Ben dans ce cas-là, venir avec le laid ou le beau, ça ne sert à rien, c'est la même chose, quoi. Hein. Le vrai ou le faux, c'est la même chose, ça n'a aucune importance. On peut choisir son contraire, puisqu'il n'y a pas de jugement, entre guillemets, il n'y a pas de, hein, on ne montre pas ce qu'on a choisi, les choix n'ont aucune importance finalement. Hein. Voilà, il n'y aurait aucune conclusion à ce jeu, comme il n'y aurait aucune conclusion à notre vie, si nous étions immortels sur ce paradis terrestre. Hein. Notre vie, nous ne pourrions atteindre aucun accomplissement. À un moment donné, l'artiste que nous sommes avec notre vie ne pourrait jamais dire « ben voilà mon tableau, voilà ma sonate hein ». Non, parce que on peut réécrire dans tous les sens, du beau, du pas beau, et tout ça n'a aucune importance, puisqu'il n'y aura jamais aucune conclusion. Alors voilà, ça c'est la parabole hein, que je voulais vous exprimer et que, sur laquelle je reviendrai donc le cours prochain, mais c'est une intuition qui me semble très importante. Il y a l'achèvement temporel de la vie biologique, mais il y a l'accomplissement humain de notre vie spirituelle. Quelle est la biographie qu'on est occupé à écrire hein? Alors cette biographie peut être pleine de méandres, hein, avec des hauts et des bas, des choses merveilleuses, des conversions, des rechutes, tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, voilà, hein, c'est ça ma vie. C'est ça. Je l'ai accompli dans ce sens-là. Alors je peux encore espérer qu'on va peut-être me pardonner mes fautes ou je ne sais pas quoi, mais ça fait partie aussi, je dirais, de mon accomplissement. Hein. Mais instantanément, voilà, pour que ma vie ait un sens, hic et nunc, il faut qu'à un certain moment, je puisse eh bien, la nouer, la conclure et l'offrir. L'offrir à qui ? Ben, aux autres, à Dieu, à l'histoire de l'humanité, je ne sais pas à quoi. Mais tourner en rond sans jamais choisir le sens ou la valeur des choses, indéfiniment, eh bien, ça me semble être quelque chose d'absurde. Hein, pour une liberté spirituelle. Voilà, nous allons nous arrêter ici.